Un enfant n'a jamais les parents dont il rêve. Seuls les enfants sans parents ont des parents de rêve. Boris Cyrulnik, né le 26 juillet 1937 à Bordeaux, est un auteur de livres grand public traitant de psychologie ainsi qu'une personnalité médiatique française. Médecin neuropsychiatre de formation, ayant un temps exercé comme tel. Mais aussi comme psychanalyste, il est membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Boris Cyrulnik est également engagé pour la protection de la nature et des animaux. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 6 mars 2024. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Notre thème du jour, la parentalité. Pour cela, nous recevons Adeline Fourcy, assistante de communication de l'Union départementale des associations familiales de l'Oise, UDAF 60, Valérie Dumouchy, médiatrice familiale et accompagnement parentalité UDAF 60, Nathalie Rubio, médiatrice familiale et accompagnement parentalité UDAF 60, Perrine Madou, assistante d'éducation surveillance dans un collège privé et créatrice cordée des parents. Nous allons commencer par demander à nos chroniqueurs de se présenter. Adeline, présentation.
Une petite présentation, voilà. Donc tu es assistante de communication de l'UDAF. Ça fait combien de temps que tu es assistante de communication donc,
Je suis en poste depuis octobre 2023.
Ah, c'est tout nouveau donc. Oui. Voilà, ok. Nathalie.
Eh ben moi je suis médiatrice familiale donc à l'UDAF depuis 2018 et donc la parentalité depuis 3 ans.
D'accord.
Moi donc c'est Valérie, donc je suis médiatrice familiale à l'UDAF depuis 2022 mais sinon depuis à peu près 10 ans. Et je fais des actions de parentalité depuis au moins 10 ans aussi.
D'accord, donc en fin de compte, avant d'être médiatrice familiale, tu faisais autre chose à l'UDAF ?
J'étais pas à l'UDAF.
Ah, t'étais pas à l'UDAF, à masse alors. Périne.
Alors moi, j'ai créé l'entreprise Cordée de parents en 2015. J'ai commencé par faire des ateliers de parents. Ensuite, je me suis formée pour former les professionnels de la petite enfance et de l'enfance. Aujourd'hui, je fais des conférences, donc je continue toute cette activité, bien entendu. Je fais aussi des conférences là où on me le demande. Et puis, à 4 ans et demi, j'ai choisi de travailler dans un collège pour être sur le terrain avec les adolescents, de manière à être légitime dans ce que je pouvais conseiller aux parents, aux professionnels. Et puis, chaque activité se nourrit, en fait. Donc, c'est très intéressant pour moi.
Oui, comme ça, tu as les deux sons de cloche, et les parents et les ados.
Exactement.
Tout à fait.
Sylvie, peux-tu nous présenter le thème du mois ?
Alors, la parentalité vient du mot parent, donc père et mère. En tant que parents, nous avons des droits, mais aussi des devoirs envers nos enfants. On dit qu'être parent est l'une des tâches la plus difficile et en plus à plein temps. Nous n'y sommes pas préparés, pas formés, nous apprenons au fur et à mesure des jours, des mois, des années. Parfois perdus dans ce lien affectif, nous avons besoin de remédier à des experts, d'être accompagnés avec cette angoisse de ne pas réussir. Est-ce devenu difficile? Est-ce un casse-tête pour les parents? Gérard, tu as un petit billet d'humour?
Oui. Parents, quel beau métier, mais qu'il est dur. Fais pas ça. Viens ici, lave-toi les mains, fais tes devoirs, range tes affaires. Bon, c'est d'accord, prends ta tablette. Ouf, une heure de calme.
Qui a connu ça?
Un peu tout le monde.
Un peu tout le monde, je crois, voilà. Alors, on a commencé à parler de parentalité dans les années 1950. Auparavant, on parlait simplement du fait d'être géniteur ou de devenir parent. De nos jours, une analyse plus sociétale et culturelle vise davantage à une reconnaissance de l'enfant, de ses besoins, de son bien-être, de son éducation. Comment peut-on définir la parentalité? Qui s'y colle? Comment on peut donner une définition à la parentalité?
Alors, moi, je veux bien vous dire, voilà, ce que je pense, c'est que c'est à la fois un projet et une responsabilité qu'ont les parents de faire grandir leurs enfants pour qu'ils deviennent des adultes épanouis, équilibrés et heureux. Voilà.
D'accord. Quelqu'un de l'UDAF, pour vous, la parentalité, vous l'exprimez comment auprès des parents quand ils sont devant vous, en fin de compte?
Bah après, être parent, donc c'est Valérie, c'est aussi être à l'écoute de son enfant, essayer de le comprendre. C'est réfléchir à comment on peut l'accompagner en lui transmettant des valeurs, en étant auprès de lui, en étant aussi à mettre des limites. C'est de trouver un équilibre.
Oui, un équilibre entre, partout, entre au sein de la famille aussi.
Voilà. D'accord. Entre être à l'écoute, transmettre des choses, lui mettre quand même un cadre, parce que être parent, c'est pas non plus dire oui à tout. Mm-hmm. Et ils ont besoin de limites. Et ils viennent les chercher, d'ailleurs. Surtout à l'adolescence.
Mais voilà, c'est ça. Oui, oui.
Mais être à l'écoute de ses enfants, mais à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas de plus en plus dur de dialoguer avec ses enfants?
Ça dépend quel âge ils ont.
Après, c'est aussi, est-ce que nous, on est en capacité, en tant que parents, de mettre des mots sur nos propres émotions, sur ce qui nous font vivre? Ce que c'est que vivre d'être parent, qu'est-ce que la frustration, et si nous on n'est pas capable de mettre des mots sur nos émotions, comment on peut leur permettre à eux d'en mettre? C'est aussi se donner du temps, parce que en effet, échanger, est-ce que c'est plus difficile? Je ne sais pas. Peut-être qu'avant on ne cherchait pas à échanger autant avec notre enfant, il n'avait pas la même place dans la famille, sa place a beaucoup changé, la nôtre aussi en tant que parent, mais la sienne, il n'y a plus les mêmes attentes qu'avant. Et du coup, ça nécessite de prendre du temps, de s'octroyer du temps pour parler, pour se parler et essayer de se comprendre.
Se comprendre. Et puis le problème aussi avec le stress, les parents, on n'est pas toujours non plus à l'écoute des enfants. Et puis il y a des fois un peu plus énervé, on n'a pas envie trop de parlementer, de discuter.
Tous autant qu'on est, on n'est pas forcément toujours disponible au même moment.
Tout à fait. Au niveau juridique, les droits et les devoirs font partie prenante donc de l'autorité parentale, et ceci jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à son émancipation. Quels sont les droits et les devoirs de chaque parent, d'après vous? Qui veut se lancer?
Alors, je dirais qu'il y a la question pour nous, on a souvent la question de l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est le fait de... on doit prendre des décisions pour lui, on doit lui permettre d'être en contact avec les membres de sa famille, quelles que soient nos relations. Le fait de prendre des décisions, que ce soit sur sa scolarité, sa santé.
Sa santé, oui.
Ça, c'est des droits. Et dans les devoirs, le fait de... par exemple, moi, je rencontre beaucoup des gens qui se séparent. Comment permettre à l'enfant d'être en relation avec le parent, l'autre parent, quand il est chez moi? Ça, c'est un de mes devoirs, en tant que parent, de ne pas le pénaliser du fait de la séparation.
D'accord.
De pas, ça ne vienne pas interférer dans ses relations avec l'un ou l'autre de ses parents, ou avec ses frères et sœurs, ou avec les grands-parents. Voilà, tout ça, ça découle.
C'est quelque chose qu'on rapproche, nous, on appelle ça la coparentalité, c'est-à-dire que les deux parents puissent combiner ensemble se faire confiance, alors déjà mutuellement, mais aussi apprendre à se faire confiance soi-même. Par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur la parentalité aujourd'hui, il y a beaucoup de conseils qui peuvent être différents parfois ou à l'opposé, et les parents ont aussi besoin de ça pour... appliquer leurs droits et leurs devoirs.
Alors c'est vrai ce que disait Valérie, c'est très facile la coparentalité, donc du père et de la mère quand ils sont ensemble, qu'ils forment un couple, mais quand ils sont séparés, effectivement, c'est plus compliqué, je pense.
Je trouve que c'est intéressant votre question dans le sens où il faut aujourd'hui savoir vraiment faire la différence entre les besoins et les désirs de l'enfant. Répondre aux besoins de l'enfant, c'est quelque chose que le parent doit faire. On a un rôle, et effectivement, répondre aux besoins d'être aimé, de manger, d'avoir une bonne hygiène, d'être en bonne santé, d'avoir un bon sommeil, et puis un espace d'intimité, de l'affection, etc., etc. Donc ça, un parent se doit d'y répondre. Et moi, j'en parle souvent en conférence, parce que c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, où les enfants sont très tentés par plein de choses, du coup, ils nous sollicitent beaucoup avec des demandes pour acheter, pour avoir un copain, pour avoir la tablette, etc., etc. Il faut que nous, on fasse la part des choses sur ce qu'est un désir et un besoin. Et du coup, c'est très important, voilà, de connaître quels sont les besoins et faire vraiment la différence. Par exemple, un désir, c'est inviter un copain, regarder la tablette, acheter des bonbons. Donc, à moi de faire la part des choses pour donner ma réponse, en fait.
D'accord, là où arrivent les limites. Dans la parentalité, certains psychologues parlent de compétences parentales ou d'incompétences, de désengagement face aux responsabilités. On ne naît pas parent, on le devient. Comment mettre à profit le lien et l'amour parent-enfant? Donc Valérie, tu avais commencé un petit peu à y répondre, Perrine aussi, en disant qu'effectivement, il faut toujours être à l'écoute de l'enfant, c'est-à-dire peut-être mieux se connaître pour mieux se comprendre aussi. Vous avez quelque chose à rajouter
Oui, parce que des fois, l'écoute, c'est abonder dans le sens de. Et là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mmh. L'enfant a besoin. Les limites, c'est vraiment fondamental. Ça le frustre. Mais en fin de compte, toute notre vie, on est frustrés. Même nous. Et s'il ne l'apprend pas petit, en fin de compte, il ne va pas comprendre, il ne va pas s'adapter non plus à la société. En fin de compte, la famille, c'est là où on apprend ce que c'est que vivre ensemble et que c'est difficile. Ben, moi, je vois beaucoup, il y a beaucoup de parents, comment éviter les conflits dans la fratrie? Ben, en fin de compte, ça fait partie de la fratrie. Alors, il ne faut pas que ça ce soit trop grave. Hein, c'est sûr que s'ils commencent à se taper dessus, là, ça devient problématique. Mais qu'il y ait de la tension dans la fratrie, c'est logique. Qu'on ne soit pas d'accord, enfants et parents, sur certaines choses, c'est logique. Qu'un petit enfant de 3 ans, parce qu'on lui a dit non, il parte dans sa chambre en tapant sur les marches de l'escalier pour qu'il soit bien sûr qu'on a compris qu'il n'était pas content, c'est pas grave. Ça, c'est... On ne peut pas... La frustration, elle en fera partie. Des fois, on ne les contente pas. Des fois, ils ne nous contentent pas, d'ailleurs. Il faut être capable de se le dire aussi, qu'ils ne nous contentent pas. Et c'est pas grave. C'est pas ce qui fait que le lien, il est pas de qualité.
Oui. Oui, c'est-à-dire, tu parles des émotions, en fin de compte, de l'enfant. C'est vrai que maintenant, on y fait plus attention. Auparavant, c'était pas du tout comme ça. Hein. C'était vraiment l'autorité des parents et on n'osait pas trop non plus répliquer. Maintenant, c'est plus facile, en fin de compte, pour l'enfant. C'est-à-dire que les parents sont là vraiment pour l'accompagner.
Ils essayent.
Ils essayent tout du moins, c'est vrai.
Non, mais les droits ne sont plus les mêmes non plus.
Non plus, non. Oui.
Maintenant, un enfant qui se dit persécuté peut toujours essayer de... Voilà, dans le temps, ça n'existait pas. Mm.
Ouais, mais... Alors, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, ce qui est important aussi, c'est montrer à l'enfant qu'il y a une nuance entre « je comprends » et je suis d'accord. Mm-hmm. Parce que être à l'écoute de son enfant, c'est on peut comprendre son émotion. Je donne un exemple tout bête avec avec ma fille adolescente par exemple. J'ai une fille adolescente, elle veut sortir jusqu'à 2h du matin. Je peux lui dire écoute, je comprends que tu aies envie de sortir jusqu'à 2h du matin, mais je ne suis pas d'accord. Tu as des devoirs à faire demain. Je ne connais pas encore bien tes amis et l'endroit où tu vas être, etc. etc. Donc, on peut être à l'écoute, mais attention aux limites à donner quand même, d'accord. Qui sont très importantes.
Et j'ajouterais, ce n'est pas parce qu'on leur explique pourquoi on n'est pas d'accord
qu'ils comprennent
et qu'ils vont facilement l'accepter. Tout et c'est toujours pas grave parce qu'ils l'ont quand même entendu. Mmh. On oublie qu'ils entendent les ados, hein, les enfants, ils entendent de ce qu'on leur dit. Ça n'enlève pas la frustration et le mécontentement de ne pas avoir ce qu'on veut, mais ça prend sens. Et c'est ça qui est important, c'est que ça prenne sens à un moment. Et oui, ils ont une émotion, et en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Perrine.
Mais j'aurais même envie de rajouter, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui. En fait, les parents d'aujourd'hui ont un petit peu aussi du mal à se saisir du fait que le conflit est constructif. Ça reprend ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un petit peu cette idée que dès qu'il y a conflit, il faut l'éviter, il faut trouver des solutions alternatives ou autres. Alors que le conflit n'est pas que négatif et que compliqué, et que c'est un moyen de résoudre les choses, de gérer les émotions, en fait.
Tout à fait.
Oui, le conflit fait partie de la vie, hein, ça c'est certain, hein, et à tous les âges de la vie, y compris adultes. Moi, c'est quelque chose que j'explique beaucoup aux enfants, aux élèves là où je travaille. On sera confronté à ça toute notre vie, donc il faut apprendre à les gérer, simplement.
Tout à fait. Alors la vie de nos jours est plus stressante, hein. Les deux parents travaillent, ils ont moins de temps pour s'occuper des enfants. Les méthodes traditionnelles d'éducation ont été modifiées par la loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires qui a été adoptée donc le 2 juillet 2019 par le Sénat. Ça a été amplifié par la loi du 7 février 2022, donc relative à la protection des enfants, qui fait partie du plan 2023-2027, publié le 20 novembre 2023 et qui prévoit 22 actions pour agir contre les violences faites aux enfants avec des moyens supplémentaires pour recueillir la parole des enfants. Donc pour cela, ils ont mis 12 écoutants supplémentaires qui vont être recrutés au numéro 119 d'ici fin 2024 et 14 supplémentaires pour le 30-18 d'ici fin 2025. C'est toujours important de donner des numéros verts en fin de compte pour aller expliquer ce qui ne va pas et prendre la parole. Alors n'oublions pas aussi les modèles familiaux qui sont évalués, famille monoparentale, recomposée, adoptive, union libre, etc. Est-ce que tout ceci a mis à mal la parentalité ou l'a rendu plus compliqué à gérer? On avait commencé un petit peu à en parler. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça?
Moi, je dirais que le modèle, il a changé si on prend deux générations en arrière.
Deux.
Ouais, je pense à peu près. Deux, trois. Voilà, les rôles étaient répartis différemment dans le couple. Alors déjà, les divorces n'étaient pas aussi, fréquents. Mmh. Les recompositions encore moins. Donc chacun avait bien son rôle, l'homme, la femme. Voilà. Il y avait des répartitions qui étaient plus claires. Aujourd'hui, les deux vont être obligés de travailler. Les répartitions sont plus floues parce que les temps aussi de chacun sont plus les mêmes pour se vouer à la famille. Et on garde quand même nos schémas culturels inconsciemment en nous. Et ça nécessite le fait que les deux travaillent, qu'il y ait les séparations, ça nécessite qu'on se parle finalement beaucoup plus. Quand vous savez où est votre place, pas besoin de discuter, c'est là. Mmh. Voilà. Moi, je sais que mon job, c'est élever les enfants, machin. Moi, mon job, c'est d'aller travailler, nanana. C'est très clair, chacun a sa place. Quand vous êtes sur les mêmes niveaux, vous êtes obligé de dialoguer pour pouvoir savoir où vous allez vous situer, à quel moment. Et c'est peut-être ça aussi encore qu'on ne prend peut-être pas assez le temps. On croit. Les gens souvent disent, bah, on se connaît. Bah oui, mais en tout cas, se connaître en tant que couple, c'est pas la même chose que se connaître en tant que parent.
Que parent, tout à fait.
Ce qu'on avait imaginé de notre parentalité et ce à quoi on est confronté dans la réalité, c'est encore différent. Et donc, on évolue. Et ça, c'est un chemin qu'on fait intérieurement, sans vraiment s'en rendre compte, d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça nécessiterait peut-être qu'on discute un peu plus sur « Bon, bah voilà, moi j'ai tel rythme. » Puis notre vie aussi change. On n'a pas forcément toujours le même rythme de vie, le même rythme de travail. On peut très bien avoir une période où on est très présent à la maison, puis avoir une période où les rythmes sont complètement... je veux dire, aujourd'hui, les gens ils travaillent en 5-8, en 4-8, oui, en 2-12. Voilà. C'est des rythmes de vie aussi qui sont très différents et qui ont des conséquences sur la gestion. Et peut-être qu'on n'en discute pas assez. On est confronté au quotidien et du coup, on assume. Les gens, en fin de compte, c'est ça qu'ils font. Hein, ils gèrent le quotidien. Et c'est ça qui, je pense, fait que c'est plus difficile. Le fait qu'il faudrait davantage discuter de comment on va se répartir les tâches. Ce qu'on attend aussi, l'un de l'autre.
Oui.
En tant que parent.
En tant que parent, effectivement.
Qu'est-ce qu'on peut se dire devant les enfants? Puis peut-être qu'est-ce qu'il faudrait éviter de se dire devant eux parce que ça les met à une place difficile ou ça nous discrédite. Et c'est pas top.
Il faut vraiment que le couple, là-dessus, soit d'accord, en fin de compte. Plus ou moins, qui discutent, effectivement, nous, c'est ce qu'on faisait aussi. Des fois, je n'étais pas d'accord, donc jamais devant les enfants.
C'est ça.
Voilà, jamais contrarié.
Et j'ai envie d'ajouter, quand le couple se construit, en fait, et que les enfants arrivent, en fait, ce sont deux éducations reçues, parce qu'on fait un peu en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Hein, on a des réflexes et on fait comme ça avec notre bon sens, en fait. Et puis, les éducations reçues ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il faut arriver dans le couple à s'accorder. Et puis, on n'est pas préparé à ça, parce que quand nos enfants arrivent, on se retrouve un peu devant le fait accompli. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mon mari veut forcer à ce qu'il finisse son assiette de légumes. Moi, je ne suis pas pour forcer, mais on est devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, donc c'est très important, effectivement, le dialogue dans le couple. Je rejoins Lynn.
Tout à fait.
Mais pour revenir sur ce que tu viens de dire, j'ai noté une petite phrase qui est sur la famille, qui dit « La famille, c'est comme les branches d'un arbre. Nous grandissons tous dans les différentes directions, mais nos racines sont les mêmes.
» Oui, tout à fait. C'est joli.
Oui, c'est joli.
C'est très, très joli. Et alors, cette phrase, elle vient de qui tu...
Je ne sais pas.
Mais c'était très joli.
Mais je dirais que ce n'est pas la mienne. Je l'ai copiée et j'ai trouvé formidable.
Oui, très sympa.
Et je rajouterais, par rapport à ce que tu disais, Perrine, qu'il y a aussi la confrontation avec l'enfant réel qui arrive. Exactement, c'est-à-dire que finalement, il y a l'éducation que les parents ont reçue, et puis il y a cet enfant avec ce qu'il est, qui est un mélange des deux, et ce qu'il apporte et ce qu'il génère finalement chez les parents.
Alors, prendre soin de nos enfants, hein, c'est une préoccupation première. Hein. Souvent, les parents se ruent sur les livres et les sites internet afin d'améliorer leur savoir, trouver des solutions ou tout simplement s'informer sur leur rôle éducatif. Un parent sur cinq se sent démuni ou a rencontré des difficultés dans l'éducation de leur enfant. Dans vos rencontres ou vos soutiens avec les parents, en général, quels sont leurs besoins, leurs interrogations?
Est-ce qu'ils font bien?
Voilà, moi je rejoins Adeline. Il faut les déculpabiliser. Ils sont souvent pleins de culpabilité, voilà, de donner les limites d'ailleurs. Donc il faut leur redire hein, que c'est important les limites. Besoin d'être rassurés dans leur autorité, de méthodes pour mettre un cadre, savoir gérer les frustrations. La gestion des écrans qui prend une place assez importante.
Trop, même parfois.
Ouais. Et c'est important, nous, qu'on puisse soutenir les parents sur ce sujet. Gérer les émotions et puis voilà, du soutien.
Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur prendre confiance en soi, en fait. Plus qu'avant, finalement. Maintenant, les parents doutent énormément de leurs compétences.
Alors après, je pense qu'ils ont des attentes vis-à-vis d'eux-mêmes dans leur rôle de parents qui sont bien plus importantes aussi qu'avant. On n'a pas le même nombre d'enfants non plus qu'il y a quelques générations.
Années, c'est vrai.
Donc, 1, 2, 3 enfants qui portent toutes nos attentes. On doit réussir. On veut qu'ils deviennent autonomes. On veut qu'ils aient une belle vie. Et du coup, ça met beaucoup de pression.
Mais peut-être que la pression, bon, c'est vrai qu'ils se la mettent eux-mêmes, parce que le fait d'aller chercher tout sur Internet ou dans les livres, il y a tellement d'informations, je pense qu'ils ne savent plus peut-être où ils en sont aussi.
Et puis moi, c'est compliqué le problème.
C'est compliqué parce que ça va les influencer en fin de compte quelque part.
Et c'est ça en fin de compte, c'est que moi, avant je faisais des groupes de parole pour des parents, des fois ils nous disaient « dites-nous quoi faire ». Ben, je leur disais, mais vous vous doutez bien que s'il y avait une seule méthode de le faire, j'aurais déjà écrit le bouquin, je serais riche, je ne travaillerais plus. Voilà. Et c'est ça, en fin de compte. Et je rejoins Nathalie avec l'idée de prendre confiance. Il n'y a pas une manière d'éduquer. Parce qu'on éduque avec nos valeurs, on éduque avec nos représentations, on éduque avec qui on est. On éduque avec l'enfant aussi qu'on a, parce qu'on ne va pas éduquer le même, de la même manière, le premier, le deuxième, le troisième. Parce qu'il y a aussi sa
personnalité.
Voilà, il y a leur personnalité. Et donc, je pense qu'ils vont chercher dans les livres tout ça parce qu'ils doutent d'eux, parce que peut-être ils ont aussi beaucoup moins de soutien familial qu'avant.
Oui, nous, c'est vrai qu'avant, à notre époque, on allait se diriger vers les grands-parents, vers nos parents. Voilà. Alors peut-être qu'il y a moins ce soutien, je ne sais pas.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de familles qui sont isolées quand même.
Oui. Alors moi, je pense que tu le ressens au niveau de quand tu reçois les parents à l'UDAF, oui.
Le doute qu'ils peuvent avoir d'eux, en fait, je pense que c'est vraiment dû à cette société qui a complètement changé. Où avant, en fait, je peux donner des exemples. On a par exemple à la télé. Moi, quand j'étais petite, voilà, il y avait le Club Dorothée. Je sais plus les horaires, mais ça durait peut-être une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, c'était terminé. Ben, on était bien obligé d'éteindre la télé et puis on passait à autre chose. Aujourd'hui, dans la télé, tout est infini. C'est-à-dire que c'est des chaînes entières avec des dessins animés qui n'en finissent plus. Les jeux vidéo, c'est pareil. Les supermarchés, voilà, tout. Accès à tout. Donc c'est sans limite. Les écrans, c'est partout. Donc en fait, les parents aujourd'hui, ils sont obligés de faire la police tout le temps. Et je pense qu'ils sont fatigués de ça. Et du coup, ils sont vraiment face à tout ça, obligés de faire la police. Et du coup, ils peuvent douter d'eux, effectivement, parce que parfois, ils n'y arrivent pas. Et puis quand il faut enlever le jeu vidéo et demander à son fils d'aller venir à table, pareil, il faut couper court à ça. Et du coup, c'est très compliqué. Je vous donne un exemple. Je vais essayer de faire vite, pas prendre trop la parole. Mais la semaine dernière, je donne ma carte bleue à ma fille, et voilà, qui a 14 ans, et elle voulait acheter un cadeau pour sa copine qui avait son anniversaire. Donc je lui dis, bah écoute, ça serait bien que tu dépasses pas 15 euros. Donc elle part avec la carte bleue, elle va acheter son jeu, etc. Et puis elle revient, elle me dit, ouais, j'ai vu les petits cadeaux, il y en avait un qui me plaisait bien, bon bah je l'ai pris, c'est 20 euros. En fait, si à l'époque où il y avait les sous, les billets,
ah ben c'est ça.
Je lui aurais donné, alors à l'époque c'était pas des euros, c'était des francs, mais je lui aurais donné 15 euros en billets, ben elle aurait trouvé la solution elle-même de prendre le jeu qui était à 15 euros, enfin à 15 euros, elle aurait peut-être vu celui de 20, et puis ben, elle serait partie sur le choix du 15 euros. Mmh. Que là, en fait, avec c'est encore une fois, il n'y a pas de limite. Mmh. Du coup, on est obligé de faire plus la police.
Donc la prochaine fois, tu lui donneras un billet de 10, et de 5, ça fera les 15 euros, voilà, tout simplement. Bon,
mais je voudrais faire une petite aparté juste pour le problème des parents. Juste les affaires, les chaussures, les affaires. Qu'est-ce que vont penser maintenant les parents s'ils doivent habiller tous les enfants de la même façon pour les écoles ?
Là, ça a été notre débat la semaine dernière.
C'était le débat, mais juste pour revenir.
Le bel uniforme...
Bah, encore une fois, c'est une question de limite. C'est-à-dire que les parents et les enfants se mettent des limites eux-mêmes. Moi, ce que j'explique aux enfants, aux élèves, puisqu'on a le cas dans le collège où je travaille, c'est-à-dire que de temps en temps, bon, y en a certains qui essayent de prendre certaines libertés, les croc-tops, les marques, etc. Bon, en fait, ce que je leur dis, c'est que quand vous aurez à vous présenter dans une entreprise plus tard, vous aurez aussi à vous présenter de manière correcte. Donc ici, c'est pareil, il y a des règles à respecter, il faut les respecter. Maintenant, si tu as envie, à une soirée ou en allant chez des amis ou dans la rue, de t'habiller d'une manière différente, libre à toi. Et tu as cet espace de liberté. Par contre, ici, on est comme dans une entreprise, il faut que tu respectes ça. Après, ce qui peut être dommage dans ces uniformes, c'est enlever aussi une part de personnalité, pas de personnalité, c'est peut-être un peu trop, mais ça leur enlève la possibilité de...
S'exprimer.
Je ne sais pas comment dire. Pas de s'exprimer,
s'individualiser.
Mais... Oui, voilà, c'est ça. S'individualiser. Mmh.
Là, je voulais revenir sur comment aider ou accompagner les parents, comment mettre en valeur les règles, ce qui est permis ou non, c'est ce qui est le plus difficile pour un parent. Comment travaillez-vous sans rentrer dans l'intimité des parents et comment leur redonner confiance? Est-ce que vous avez des ateliers types pour ça au niveau de l'UDAF, même toi, Perrine, au niveau de cordée de parents? Parce que ça doit être compliqué, parce qu'automatiquement, il ne faut pas rentrer dans l'intimité des parents, faut faire attention. Comment vous vous y prenez, en fin de compte?
Alors, on n'a pas d'atelier. Après, ça va être de discuter avec eux qu'est-ce qu'ils veulent transmettre aussi, qu'est-ce qui fait sens pour eux. Ma valeur à moi fondamentale n'est peut-être pas la valeur fondamentale de celui d'en face, et c'est pas grave en soi.
Alors on a eu un petit atelier quand même pendant un moment qu'on appelait être parent à chacun sa recette.
Béatrice, effectivement.
Béatrice,
c'est beau ça comme formule.
Béatrice est à l'origine aussi de la création de ce dispositif.
Vas-y, explique un petit peu ce dispositif. Moi, j'ai eu la chance d'être présente une fois à cet atelier que j'ai beaucoup aimé. Oui.
Voilà. Donc c'est un dispositif où, alors déjà, on présente l'atelier avec des règles qui sont des règles de respect du cadre. Et donc ces règles, c'est que tout est confidentiel dans ce qui se dit, qu'on n'est pas là pour juger ou prendre parti, qu'il y a effectivement une multiplicité de possibilités à échanger. Et donc on présente un chaudron métallique, magnétique, donc un gros chaudron tout noir avec une grosse flamme en dessous. Et puis on a des étiquettes de différentes couleurs avec des mots. Et des mots qui représentent, on va dire, les valeurs qui sont importantes pour être parent pour chacun. Et donc, tous les participants, les participantes, parce que c'est plus souvent des dames, voilà. prennent autant d'étiquettes qui correspondent à leur recette et après vont les poser sur ce chaudron. Et ensuite, toutes les personnes vont expliquer le mot qu'elles ont choisi, pourquoi elles l'ont choisi, voilà. Il y a des mots qui reviennent plus souvent, il y a des mots qui sont que pour une personne. Et là, ce n'est pas un souci, on ne va pas juger qu'il y a ce mot-là ou un autre mot. Et ils vont pouvoir se dire comment ils fonctionnent et trouver peut-être des solutions entre eux, parce que c'est ça toute la force de ces groupes-là. C'est que il n'y a pas de bonne ou de meilleure manière de faire. Il y a ce qui va correspondre à chacun. Et il y a peut-être des idées auxquelles certaines n'ont pas pensé et qui vont émerger. Voilà. Et donc, c'est à travers ça. Alors après, effectivement, il se décline cet atelier avec les besoins des enfants, les émotions, etc., sur d'autres ateliers. Mais le premier, c'est celui-là. Ça permet aux personnes de dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc, il y en a qui rentrent dans l'intimité très vite, hein, d'ailleurs, dans des choses plus personnelles. Et puis, il y en a qui vont prendre le temps. Et chacun le fait à son rythme. Et c'est ça qui est important.
Et quels sont les mots qui reviennent le plus souvent lors de ces ateliers ?
Alors, il y en a plusieurs. Hein, tu peux m'aider, amour. Valérie, aussi. Mais moi, je dirais le respect et l'écoute. Mm. Je ne sais pas, toi, ce que tu...
Oui, et puis j'ajouterai amour.
Amour.
Nous allons revenir sur ce débat après un petit intermède musical.
Tu me fais marrer bébé quand on joue à cache-cache. 10 fois dans la journée, à tous les coups ça marche. Tu me fais marrer bébé quand t'as l'air tout déçu. Ou bien très énervé alors que c'est que tu te chies dessus. Tu me fais marrer bébé comme t'as l'air d'aimer le sable. Quand je te fais t'épater, on croirait que t'es à table. Tu me fais marrer bébé comme tu me repousses des mains. Comme tu me donnes des coups de pied quand je te fais un câlin. C'est maintenant et tout de suite. C'est pour l'instant que j'en profite. C'est pas le bon moment pour se dire que le temps passe vite. Ils me font marrer bébé comme tu les rends gaga. Mon papa, ton pépé, je l'ai jamais vu comme ça. Ils me font marrer bébé quand ils me disent quoi faire. Alors que j'ai rien demandé, j'écoute surtout ta mère. Ils me font marrer bébé à dire que t'as grandi. Et qu'est-ce que t'as changé alors que t'es toujours tout petit. Ils me font marrer bébé quand ils poussent un soupir. Encore à me répéter que je vais pas te voir grandir. C'est maintenant et tout. C'est pour l'instant que j'en profite. C'est pas le bon moment pour se dire que le temps passe vite. On va se marrer bébé quand tu demanderas pourquoi. Et que je vais t'expliquer des trucs que je sais même pas. On va se marrer bébé même si je peux rien te promettre. Et quand faudra pleurer, faudra aussi s'en remettre. On va se marrer bébé à se faire des McDo. J'suis sûr qu'à démonter, c'est vachement rigolo. On va se marrer bébé et même si rien ne se passe, comme je veux l'imaginer, si c'est vrai que tout s'efface. C'est maintenant et tout de suite. C'est pour l'instant que j'en profite. C'est pas le bon moment pour se dire que le temps. C'est maintenant et tout de suite. C'est pour l'instant que j'en profite. C'est pas le bon moment pour se dire que le temps passe vite.
La parentalité. Pour cela, aujourd'hui, nous recevons Adeline Fourcy, assistante de communication de l'Union départementale des associations familiales de l'Oise, UDAF 60, Valérie Dumouchy, médiatrice familiale et accompagnement parentalité UDAF 60, Nathalie Rubio, médiatrice familiale, Périne Madou, assistante d'éducation surveillance dans un collège privé et créatrice cordée de parents. Sylvie,
Alors, les parents sont de plus en plus nombreux à prendre leur rôle au sérieux et à... Les pères sont de plus en plus nombreux à prendre leur rôle au sérieux et à s'impliquer. Après l'apparition de blogs de maman, voici les blogs de papa. Ils y parlent d'école, jeux, mais aussi télé, musique, cuisine. Parfois font référence à l'émission La Maison des Maternelles. La réforme sur l'allongement du congé paternité a été voulue par le gouvernement pour permettre aux pères de s'investir plus dans la parentalité, de lutter contre les inégalités femmes et hommes, et de favoriser l'égalité à la maison comme au bureau, de créer un lien nécessaire avec son bébé, un retour aux valeurs de la famille. Avez-vous des pères présents lors de vos interventions, débats ou groupes de parole? Si oui, ont-ils des préoccupations identiques aux mamans? Sont-ils angoissés et indécis parfois ou relativisent-ils plus les choses que les mamans? Qu'est-ce que vous avez à dire sur les papas? Vous en avez-vous à l'UDAF qui viennent vous voir?
Alors, on en a dans les médiations.
Oui, comme
ça,
oui.
Voilà, puisque les parents qui se séparent, on a les deux parents. Dans les groupes de parole, on en a peu. De temps en temps, on en a un. On fait certains dispositifs où ils peuvent être présents et on va les garder dans la foulée de la séance précédente. Mais effectivement, on a beaucoup plus de mamans que de papas.
Que de papas.
Ouais. Ouais, idem pour moi. Moi, j'ai eu surtout des mamans. Après, c'est compliqué de trouver les disponibilités communes aux deux. Et du coup, j'ai pas de papa, moi.
Pas de papa, du non. Tout, du tout. C'est un petit peu dommage, hein, c'est vrai que ça serait intéressant de voir un petit peu ce qu'ils pensent de l'éducation de l'enfant.
Alors, il y en a qui peuvent être en demande parfois. Nous, c'est parce qu'on n'a pas ces groupes-là strictement organisés. Mais il y en a qui disent parfois, si on pouvait se rencontrer entre papas, on pourrait s'écouter. Effectivement, dans les séparations, ils vont beaucoup vers SOS Papa pour essayer de se retrouver entre papas.
D'accord. Et sinon, quand vous les avez avec la maman, le papa, quand il y a un divorce ou autre, est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce que vous les sentez bien présents ou pas, en fin de compte?
On va dire que ça dépend de l'investissement de chacun, mais on peut avoir parfois des papas plus investis que des mamans. Hein. Ça, c'est courant. Voilà. Maintenant, dans la globalité, c'est plus les mamans qui se mobilisent de manière générale dans le quotidien des enfants et qui attendent parfois du papa qu'il s'investisse un peu de la même manière, même dans la séparation, ce qui n'est pas toujours facile au départ, hein, parce que quand, comme disait Valérie au début, il y a une question de rôle encore qui existe. Et donc, au moment de la séparation, le papa, il doit prendre une place qu'il n'avait pas forcément. Et des fois, c'est la maman qui recule en laissant pas cette place-là, alors que le papa est tout aussi légitime du fait de ses droits et de ses devoirs dans l'autorité parentale.
Et justement, les mamans, elles parlent comment du papa pendant les groupes de parole ou lors de débats? Elles en parlent comment du papa? Est-ce qu'elles trouvent que le père s'investit assez ou pas, Perrine, quand
oui,
tu interviens?
J'ai effectivement des mamans, même si les papas ne sont pas présents, voilà, dans les groupes de parole que j'anime, effectivement, les mamans reviennent après plusieurs rencontres pour dire, ben voilà, j'ai parlé de ça avec mon mari, on a pensé ça, et puis lui, il pense ça, donc ces groupes de parole, c'est l'occasion d'échange entre eux, et du coup, il y a un échange après au sein du groupe. Effectivement, elles se livrent un peu, il y a un peu l'intimité, nous on doit rester neutre, mais c'est intéressant.
D'accord. Avant de parler de l'adolescence, j'aurais voulu que tu vas faire une conférence à Crépy-en-Valois.
Oui.
Est-ce que tu peux en parler brièvement? C'est ta pub.
Oui, c'est gentil. Donc, c'est le 10 avril, mercredi, pour le forum de la parentalité qui a lieu à Crépy. Et du coup, ce sera, je crois, 20h30. Donc, l'intitulé, c'est « Pleurs et colère, comment avoir la patience ?» ça va être le découlé de la conférence, ça va être en fonction de l'âge. Où je parle au début du bébé qui arrive, ensuite de l'enfant qui grandit, ensuite de l'adolescence. Et puis, je vais dans les conférences, je mets beaucoup, beaucoup d'exemples, je me mets un petit peu en scène, j'ajoute beaucoup d'éléments symboliques de façon à ce que ce soit
dynamique et interactif. Je fais un peu participer le public. Ben ça va être des trucs et astuces pour avoir cette patience. J'espère que j'apporterai des éléments intéressants pour que ce soit plus facile pour les parents lors de cette conférence.
Donc le 10 avril, et c'est à la MJC.
C'est ça.
Voilà. Ludaf, vous faites de temps en temps des conférences ou des choses comme ça ou pas du tout ?
Non.
Non.
Non, pas de conférences.
Pas de conférences. D'accord. On va parler des adolescents, n'est-ce pas ? Alors, donc, les relations parents-adolescents deviennent plus tendues. Hein. L'ado aspirant à plus de liberté et d'autonomie, souvent les parents augmentent leur surveillance face à ce nouveau défi par peur ou par maladresse. Comment faire comprendre que l'ado a besoin de s'émanciper et comment ne pas perdre son autorité de parent ? La crise d'ado peut-elle dépendre aussi des parents ? Et quel genre d'atelier ou d'accompagnement avez-vous mis en place pour aider les parents qui souvent sont entre incompréhension et parfois colère ?
Alors moi,
Valérie.
À l'adolescence, la question de l'autorité, je dirais que c'est plus une question de comment on crée une confiance. Parce que l'adolescence, c'est s'éloigner. C'est normal, on l'a tous vécu. Hein. Les parents l'oublient des fois, hein, mais ils l'ont vécu aussi. Et c'est comment faire confiance à la relation, au lien qu'on a créé avec son enfant. Et je pense que c'est aussi, des fois, en effet, on ne peut plus dire comme avant, « Ah bah non, c'est non, et puis c'est tout. » C'est des fois peut-être aussi travailler avec lui les limites pour trouver quelque chose qui nous va tous les deux. Ça peut être aussi une co-construction des limites hein, à l'adolescence. Un ado de 11 ans, c'est pas comme un ado de 16. Hein. Donc en effet, on ne pourra pas intervenir sur les limites de la même manière. Mais je crois que c'est plus... Ben, je ne sais plus si c'est une question d'autorité, comme je m'impose et je suis la figure adulte. Non, l'adolescence, c'est un moment où ils s'éloignent de nous, mais où ils ont toujours besoin de nous et où on doit montrer qu'on est capable de les accompagner. Et je pense que c'est aussi un moment qui est très difficile pour l'enfant, l'ado, mais aussi très difficile pour le parent. Être parent d'un petit, ce n'est pas être parent d'un ado. Et c'est comment on arrive, nous, en tant qu'adultes et parents, à se repositionner.
C'est ça, on se remet toujours en question. En fait.
La posture, en fait, est différente. On doit changer notre posture, effectivement, face à l'enfant. On peut imposer, on peut interdire, c'est facile. Avec l'ado, il faut rentrer en négociation. Enfin, il faut. Non, pas tout le temps, parce que forcément, il faut mettre un cadre, il faut mettre des limites, aussi pour le sécuriser. Mais impliquer l'ado aux décisions qui le concernent. Si on s'oppose, si on impose, on va au clash. Donc c'est important de prendre en compte l'avis de l'adolescent, même si la décision finale ce sera pas pour l'ado dans ce qu'il souhaite. Mais en tout cas, prendre en compte que ses demandes et lui dire, écoute, oui, j'entends ce que tu me dis, j'entends ta demande. Par contre, tu peux comprendre que moi, sur ce sujet, je ne peux pas lâcher. J'ai besoin d'être rassurée là-dessus. Il faut que ton sommeil soit respecté. Il faut que tu penses à ça, etc., etc.
Moi, je dirais qu'à l'adolescence, il faut choisir ses batailles. C'est ça. Il y a des batailles qui valent la peine. Et d'autres où il faut peut-être s'économiser. On parlait tout à l'heure de la notion de... Quand tu disais tout à l'heure, Périne, mettre des limites et que les parents ont l'impression de mettre beaucoup de limites, à un moment, ce n'est pas non plus très agréable d'avoir cette image de soi, en tant que parent, de n'être que du négatif pour son enfant.
Tout à fait.
Personne peut vivre en ayant le sentiment que d'être que du négatif. C'est pas du tout très bon pour notre estime de nous-mêmes. Donc, il faut aussi savoir mesurer qu'est-ce qui est important pour moi en tant que parent, qu'est-ce que je veux absolument transmettre. Voilà.
Il faut plus avoir, c'est ce que j'avais noté dans le conducteur, hein, il ne s'agit plus de leur faire la morale, mais d'avoir des relations sans jugement et être à l'écoute pour les soutenir. Moi, je me retourne vers Périne. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'obtenir des confidences de la part des ados ? Donnent-ils facilement leur opinion sur leurs propres parents ? Et pour eux, quels sont les parents parfaits ? Parce que toi, tu es dans un collège, donc oui. Tu as aussi ce côté ado. Ludaf, vous recevez aussi des ados ?
Oui, tout à fait.
Alors oui, ça m'est arrivé d'avoir des confidences d'ados. En général, ils viennent quand...
quand vraiment ça va pas. Et quand vraiment ça va pas, c'est quand quelque chose dans le collège a déclenché le fait que ça n'aille pas. Et c'est la goutte d'eau. Et avec mes parents, c'est pareil, madame, je vais me faire mon daron. Je vais me faire exploser. Non, en fait, ça peut être une mauvaise note, ça peut être un prof qui s'est fâché, et dans ces cas-là, oui, je suis assez proche d'eux, voilà, je suis dans la vie scolaire, donc forcément, ils viennent vers moi. En ce qui concerne les parents parfaits, cette question, je leur ai posé la question. d'ailleurs, ils étaient très contents de pouvoir y répondre. Donc, ils m'ont dit, des parents parfaits, ce seraient des parents qui soient stricts, mais pas trop. Voilà, donc ils sont quand même assez lucides et corrects, je trouve, de ne pas avoir de tabou. Voilà. Alors, bien entendu, hein, je n'ai pas questionné tous les élèves.
C'est quoi qui est tabou pour eux?
Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas été trop loin dans les questions. pas d'humiliation. Expliquer les raisons des punitions. Parce que quelquefois, ils ne comprennent pas. Donc, c'est vrai. Expliquer et doser, ils m'ont dit. Accepter que le parent accepte qu'il peut avoir tort devant l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui a été dit. Savoir s'excuser. Ils m'ont donné une belle liste. Hein. arrêter de dire que tout est à cause des écrans. Je vous mets le ton qu'ils ont utilisé. J'ai un sixième qui m'a dit « Mais madame, les parents parfaits, ça n'existe pas. » Ça, j'ai trouvé ça très mignon. Il a raison, je lui ai dit d'ailleurs. Très bonne réponse. Que les parents n'imposent pas leurs idées. Et qui laisse une certaine liberté en fonction de l'âge.
D'accord.
Voilà.
C'est intéressant. À chaque fois, ils ont des bonnes réponses.
Oui, moi, je voulais revenir sur les limites. Est-ce que de temps en temps, le fait de l'argent de poche en vient?
Grande question, l'argent de poche, effectivement.
C'est peu.
Moi, c'est assez peu aussi.
Beaucoup plus la question des écrans que
les
écrans.
Oui, c'est vrai que non, l'argent de poche, pas trop, non. C'était plus peut-être de notre époque.
Oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Oui.
Peut-être plus aussi de l'autonomie si on voit un cadre aussi.
Oui.
Un certain âge.
Après, j'avais envie de revenir sur une question, si vous le permettez, quelque chose. on parlait d'illimit tout à l'heure. Je pense qu'il faut, quand on met des limites, il faut effectivement, tu disais, s'il n'y a que ça, si le parent n'est là que pour mettre des limites, ça devient compliqué. Il faut vraiment que le parent prenne le temps de passer des moments avec l'enfant pour qu'il y ait des moments joyeux et plutôt sereins. Et puis surtout, féliciter quand les limites sont respectées. Ça, c'est extrêmement important. Parce que souvent, ça, c'est nos réflexes. Hein, on est là pour dire tout ce qui va mal, mais on ne dit pas assez ce qui va bien. Voilà, parce qu'on oublie.
C'est très français,
et ça, c'est vraiment important.
C'est très français de regarder le négatif.
Et puis ça leur permet aussi de prendre confiance en eux, en fin de compte, les jeunes aussi. Hein.
Ils adorent. Et nous aussi, d'ailleurs, en tant qu'adultes.
Mais surtout que je rajouterais par rapport aux limites, les parents sont souvent très surpris. En tout cas, je pense que Valérie, c'est pareil pour toi. Quand on fait des séances où on a un parent et un ado et qu'on travaille sur la question des limites, parfois l'adolescent va apporter des limites beaucoup plus sévères quand il va évoquer des questions de limites que le parent.
Justement, oui, vous avez des ateliers qui reçoivent parents et ados, et en fin de compte, ça se passe bien en général? On ne m'entend pas. Oui, vous avez des ateliers parents-ados, ça se passe bien dans ce cas-là, oui.
On a plusieurs types de dispositifs, on a dans la parentalité, on a aussi de la médiation parent-ado, donc là c'est dans le cadre de la même famille, et puis effectivement on a des ateliers où on reçoit des parents et des ados. La thématique est souvent autour quand même de la scolarité, c'est-à-dire que d'atelier, on le fait avec des jeunes qui sont décrocheurs scolaires, donc ils sont dans des dispositifs particuliers, et donc nous on va intervenir pour qu'il y ait un échange qui se fasse. Donc effectivement, la plupart du temps ça se passe bien, mais les limites, entre guillemets, de ces rencontres ont été déjà posées par les enfants avec d'autres intervenants. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent leur règlement dans ce qu'ils vont faire et dans leur manière d'agir entre eux et avec les adultes qui interviennent. Donc finalement, quand les parents sont présents, ils respectent ce cadre-là, en fait, qu'ils se sont eux-mêmes construits.
D'accord.
Et puis, bon, c'est plus au niveau des parents. Enfin, je ne sais pas toi, Valérie, mais moi, je trouve que c'est plus au niveau des parents où parfois la participation n'est pas aussi motivée. Parfois, ils ne viennent pas, d'ailleurs, dans ces ateliers. Les enfants sont là parce qu'ils sont dans un suivi.
Dans un suivi, oui.
Mais
oui.
Les parents, parfois, manquent à l'appel.
Ce qui est dommage parce que ça serait vraiment le moment.
Tout à fait. Pour ceux qui sont là,
ressortir des choses très intéressantes et positives.
Tout à fait. Pour ceux qui sont là, c'est ce que disent les parents à l'issue de ces ateliers. Mmh. On a entendu des choses qu'on n'attendait pas des enfants en général et d'une autre en particulier.
Alors, suite aux recherches sur le comportement et la psychologie de l'enfant et de l'ado, la parentalité est à la mode. Nous avons la parentalité positive, bienveillante, créative. Ces nouveaux concepts invitent donc les parents à se poser des questions sur leur rôle et leur engagement éducatif, sur leur mission de parents. Quels sont les bénéfices de ces nouveaux concepts, mais aussi leurs inconvénients sur le développement de nos enfants et ados? La mise en place de ces concepts facilite-t-il la tâche des parents? Jackie, est-ce que tu as pu regarder un petit peu au niveau de ces... C'est un peu pédagogie alternative.
Oui. Alors, ces concepts qui sont assez récents. Ce sont des parentalités positives et bienveillantes. Donc c'est le même concept.
Hein, oui, à peu près, oui.
Donc ces concepts sont liés à la méthode Montessori. Donc c'est beaucoup sur des méthodes aussi liées à l'éducation, enfin liées à la pédagogie. Donc à tout ce qui est école et pédagogie. Alors, c'est des concepts qui sont liés à la... il y a plusieurs principes. Hein, c'est des concepts qui sont liés au respect, à l'empathie vis-à-vis de l'enfant, à l'éducation non violente, à la communication aussi non violente, parce que ça le fait. Et eux, ils prônent aussi une figure d'attachement. Donc, ces concepts-là, donc, en général, principalement, c'est la mère, mais ça peut être aussi, quelquefois, aussi le père. Enfin, c'est surtout d'avoir un lien d'attachement auquel l'enfant peut se référer. Et ils ont aussi alors plusieurs principes. Donc c'est accueillir, écouter, apporter, poser et résoudre. Donc c'est tout un lien de principes. Et après la parentalité créative, c'est un autre concept qui vient plus ou moins de Montessori, mais qui est lié à une personne, c'est Catherine Dumontier, Kremer. Qui est un concept sur la parentalité, sur la joie. Alors, elle, c'est plus ou moins, mais il y a une petite chose à part quand même, c'est sur la joie de vivre et le plaisir d'être ensemble, et le besoin de chacun, et surtout sur le soutien du chemin de soi, donc un peu de la confiance en soi. Parce qu'il y a aussi une grosse problématique sur les enfants maintenant, c'est le problème de... Nous, on le voit beaucoup... En pédagogie dans les écoles, ce qu'ils mettent en place aussi, c'est un manque de confiance en soi. Donc ça, il y a ces concepts-là. Alors après, les bienfaits, moi j'ai regardé plusieurs choses, et notamment des avis de chacun. La majorité sont positifs, mais il y a aussi quelques personnes qui disent que ces avis, c'est lié aussi à une certaine classe de personnes. Donc c'est pas le général, c'est à des gens d'une certaine classe. Donc c'est pas forcément adapté à tout le monde.
Dans la pédagogie créative, moi j'ai lu un truc intéressant, c'était accueillir les émotions de son enfant, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et utiliser en fin de compte souvent les jeux aussi pour relâcher la tension. Alors il y en a beaucoup qui critiquent ce que tu disais, l'éducation positive ou bienveillante, hein, c'est à peu près la même chose, parce qu'il y en a qui disent que ça crée des enfants rois et qui évoluent en ados tyranniques pour devenir en fin de compte des adultes égocentriques et parfaitement détestables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous de ça
Moi j'aurais tendance à dire que la notion de bienveillance, elle est importante. Le problème, c'est si ça va à l'excès. En fin de compte, c'est des méthodes je vais le dire entre guillemets, qui vendent une image de la parentalité où tout glisse. Et donc, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas de mécontentement.
C'est ça.
Et c'est ça le problème, en fin de compte.
C'est un peu le monde idéal.
Voilà. Or,
sans conflit.
La frustration, le conflit, la mésentente, les désaccords, ça fait partie de la vie, ça fait partie des relations humaines. Et la question, c'est, je pense qu'un effet, respecter l'autre, être bienveillant à son égard, le laisser s'exprimer sur ses émotions. Parce qu'on parle beaucoup des émotions des enfants, mais je pense qu'il faut aussi être au clair avec les émotions des parents.
Parce que c'est pas facile.
C'est des fois notre frustration qui fait qu'on vit ce que nous renvoie notre enfant, quelque chose de très violent, alors que lui, en soi, c'était du basique. Hein. Il ne comprend pas pourquoi on s'énerve autant. Donc voilà, il y a vraiment, je pense que voilà, il y a des principes qui sont très bons tant qu'on n'oublie pas que ben il y aura des mécontentements, que ça ne veut pas dire laisser tout faire. Okay. Être à l'écoute de l'enfant, c'est pas lui dire oui. C'est prendre conscience de ce qu'il nous dit, d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre pour l'accompagner au mieux. Ça ne veut toujours pas dire le contenter. Voilà, c'est toute cette nuance de comment je peux l'accompagner et le laisser s'exprimer, mais en lui rappelant que c'est moi quand même qui ai cette responsabilité de garantir qu'il soit en bonne santé, qu'il ne fasse pas de mauvaises rencontres. Voilà, c'est ma responsabilité d'adulte.
Périne, tu fais des conférences, toi, justement, sur ces nouvelles pédagogies ou pas du tout ?
Oui, forcément, l'éducation bienveillante, voilà, c'est ce que je donne dans mes conférences avec toutes les notions pour l'éducation, savoir mettre un cadre, mais un cadre bienveillant. Alors c'est quoi un cadre bienveillant ? Pour vous donner un exemple, j'explique vraiment la différence entre punition et conséquence des actes. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec les élèves que j'ai en responsabilité dans mon collège. Une punition, c'est quelque chose d'infligé à l'enfant, c'est quelque chose de négatif, un châtiment, quelque chose d'humiliant, enfin voilà, c'est négatif. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais pas punition, parce que punition, si on regarde vraiment dans le dictionnaire, c'est très négatif. Mais conséquence des actes, il y a vraiment une nuance, c'est ben voilà, subir les conséquences des actes, c'est par exemple voilà, un petit enfant qui va de 5 ans, qui va renverser son jus d'orange, si je suis parent, je vais exploser, je vais m'énerver, oh là là, t'as renversé ton jus d'orange, sors de table, tu seras privé de dessert. Ben là, on est vraiment dans la punition, dans l'énervement. Alors que si je lui dis, sans m'énerver, bon, ben, tu vas être obligé de sortir de table. Déjà, il va s'arrêter de manger, ça va pas forcément lui plaire. Et puis, tu vas aller chercher l'éponge qui est sous l'évier. Et puis, tu vas nettoyer. Alors, il va nettoyer, bien sûr, maladroitement, puisqu'il a que 5 ans. Mais l'objectif, c'est pas que ce soit nettoyé. L'objectif, c'est qu'il apprenne à subir les conséquences de ses actes. Bien entendu, on va peut-être repasser derrière pour que ce soit bien fait, etc., etc. Mais là, il aura vraiment compris, entre guillemets, son mauvais comportement, même s'il n'a pas fait exprès. Et du coup, là, on apprend à l'enfant, à bien se comporter, ouais, à faire attention. Alors que vraiment, voilà,
oui, il devient responsable. J'entends ça, quoi. C'est comment on devient responsable de ce qu'on met en place, de ce qu'on fait. Et ça manque des fois dans la société, même chez les adultes.
Voilà, donc la bienveillance, en fait, c'est tout un tas de choses comme ça. Alors ça, c'est un exemple, mais bien entendu, il y a tout un tas de choses.
Il y a une méthode récente, justement, je regardais, une statistique, mais une récente au niveau du CNRS, donc une personne qui a fait... et qui comparait justement ces méthodes-là, enfin, qui faisait une alerte sur ces méthodes-là, justement, sur la cause de l'enfant roi, qui peut être aussi, voilà.
Alors, je rejoins Adeline en disant qu'il ne faut surtout pas être dans l'excès, et c'est peut-être ça qui pose problème aujourd'hui. On a entendu Caroline Goldman pas mal râler, effectivement, de tous les parents qu'elle a dans son cabinet qui ne savent plus mettre les limites. Donc, l'éducation bienveillante, ce n'est pas ne pas mettre de limites, ça surtout pas. L'enfant a besoin de limites pour son équilibre, et ça, c'est extrêmement important.
Mais des limites, il en aura tout le long de sa vie.
Exactement. Donc, il faut lui apprendre...
À les accepter.
À les accepter, à les respecter, à les comprendre. Et on est là pour le guider en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que toutes les personnes qui sont en charge d'enfants, les grands-parents. Voilà.
je donne quelquefois l'exemple, voilà, il faut mettre des limites. Par exemple, si je reçois la classe entière de mon enfant dans mon salon, là, tout à coup, je vais me sentir un peu à vouloir mettre des limites. C'est certain que ça ne va pas être les mêmes limites que mes deux enfants quand ils sont dans le salon. Là, toute la classe arrive dans mon salon, je vais mettre des limites. Elles sont nécessaires.
Petit billet d'humeur, Jackie ?
Oui. Donc la parentalité, nouveau phénomène de société parmi tant d'autres, hein, tous les phénomènes, enfin toutes les choses, les sujets qui nous arrivent en ce moment. Donc avec la problématique du rôle de parent se pose aussi la problématique du rôle de la famille, donc en général, dans le rôle du parent qui arrive, parce que il y a, nous, ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait aussi toute la famille qui était autour. Donc il faut aussi tenir compte de cela, des grands-parents, enfin, ce qu'on a moins maintenant, mais avant nous, on avait cela aussi. Et avec les nouveaux concepts qui émergent, se pose aussi la question de comment choisir lequel est celui qui est adapté à chaque personne. Donc ça, c'est aussi une problématique pour les nouveaux parents. Donc parmi tous ces concepts et toutes ces nouvelles choses, comment choisir et parce que aussi parmi l'étude du CNRS, on voit aussi donc parmi ces concepts aussi émerger ils sont pas adaptés à tout le monde. C'est des concepts qui sont adaptés à une certaine classe et ça, est-ce qu'on peut ces concepts-là peuvent aussi être beaucoup plus généralisés.
Alors là, je reviens sur ce que tu dis, parce que tu dis que les parents, c'est compliqué, c'est difficile avec tous ces concepts. Mais en tant que grand-parent, c'est compliqué aussi, parce qu'on est obligé de suivre l'éducation que notre enfant aura voulu pour le sien. Mm-hmm. C'est compliqué aussi, effectivement.
Parce que de ne pas avoir d'interception, enfin entre les parents et les grands-parents. Quelquefois, c'est aussi ce
lien qui... Il y a un tiraillement, mais bon, on suit quand même. Après, voilà.
Mais les enfants sont rusés. Hein, parce mais que très. Des fois, de temps en temps, on entend les parents dire « Demande à ta mère » ou « Demande à ton père ».
Oui, ça ils aiment. Et c'est là qu'il faut vraiment s'accorder, comme tu disais tout à l'heure, Valérie, le père et la mère, il faut vraiment qu'ils discutent ensemble vraiment sur l'éducation de l'enfant et être d'accord.
Tout comme ils peuvent le faire avec les grands-parents, avec quand les parents, les grands-parents.
Je sais.
Mais ça peut être aussi dans cette notion de respect.
De respect, tout à
on
fait.
Est différent.
On est différent.
Et être grand-parent, c'est plus être parent.
Oui,
mais
ça.
Du coup, ils peuvent avoir.
Voilà, c'est ça.
Où se situer. Donc,
voilà, faut
on intervient
ça se retravaille.
Pas. Voilà, c'est ça.
Ah, de temps en temps, j'ai mes petits-enfants qui me demandent mais comment tu faisais avec papa. Et alors, je leur dis ça, il faut leur demander. J'ai jamais dit quoi que ce soit, mais c'est la question.
Moi, je me souviens de ma grand-mère quand j'étais petite qui nous disait, enfin, qui le disait même ouvertement, « Ah ben, chez moi, mes petits-enfants, ils ont le droit de sauter sur les lits. Par contre, ils n'ont pas le droit de le faire chez leurs parents. Hein. » Donc, voilà. Et on l'entendait et on le comprenait, en fait.
C'est sûr qu'en étant grand-parent, on laisse passer plus de choses.
Oui, voilà. Mais heureusement que vous puissiez en profiter quand même.
Alors, des coachs, des psychologues proposent aux parents des modules accompagnés d'activités pour être à l'écoute des émotions de l'enfant, pour mieux vivre harmonieusement les relations parents-enfants, des cours de parentalité ou d'éducation parentale payants ont vu le jour sur Internet qui se développe sans cesse. Des conférences pour des professionnels, des formations pour les parents prouvent l'ardeur pour beaucoup, l'envie d'acquérir des connaissances sur l'évolution des comportements de l'enfant pour mieux les appréhender. La parentalité, oui, mais à quel prix ? Pourtant, les accompagnements existent à titre gracieux ou très abordable via les conseils départementaux. Quels sont-ils ? Quels sont les plans d'urgence pour accompagner les parents au plus vite, sachant que les services médico-sociaux de proximité sont aujourd'hui obstrués ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus quand vous voyez toute cette parentalité, tous ces cours, ces...
Moi, je dirais que c'est pas gênant de se renseigner tant qu'on s'attend pas à ce que ce soit la méthode magique. Parce que automatiquement, on va être déçu en tant que parent, on va avoir un sentiment d'échec parce que ça ne marchera pas comme on l'avait idéalisé. Donc c'est bien, si on a besoin. Voilà, avant ils allaient dans la famille, maintenant on va chercher auprès de professionnels, pourquoi pas. Mm-hmm. Si c'est pour réfléchir sa parentalité, pas pour superposer des méthodes qui seraient soi-disant miraculeuses. Il n'y a pas de miracle en fin de compte, la vie c'est pas ça. Mm-hmm. Le rapport humain il n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, ça fait partie de la vie. Après, voilà, je pense que c'est, on va vers des professionnels parce qu'on n'a peut-être pas autant le soutien de la famille qu'avant. Ou peut-être qu'il est trop jugeant pour certains, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'on ne veut surtout pas demander à la mère ou à la belle-mère. Ensuite, c'est vrai qu'il y a les conseils départementaux, mais les gens, ça leur fait peur.
Pourquoi ça leur fait peur ?
Parce qu'on rentre dans la... On rentre dans l'aide sociale à l'enfance, et l'aide sociale à l'enfance, on a peur d'elle. Mmh. Et peut-être, des fois, on a peur qu'une fois qu'on y est, on soit... Il y a le jugement... Il y a les conséquences que ça peut avoir.
Quelles sont les conséquences ? Je suis curieuse. Hein.
Celles qu'imaginent les parents, c'est qu'on va leur enlever leur enfant. Ouais. C'est la première chose qu'ils pensent. Dès qu'ils pensent protection de l'enfance, ils pensent qu'on va leur kidnapper. Enfin, voilà, et l'accueil, l'écoute, le soutien, en fait, ils n'en ont pas conscience. Nous, on en reçoit beaucoup, qu'on réoriente vers ces professionnels-là en leur expliquant qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de l'écoute. Mais c'est encore une idée bien marquée, hein, parce que la protection de l'enfance, c'est quand même quelque chose de très ancré. J'ai plus le nom qui me revient sur ce que c'était avant, mais c'était un nom... qui faisait très 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 peur, et cette peur-là, elle perdure en fait.
Oui, je pense que c'est important de rappeler que toutes ces personnes qui soutiennent les parents, qui font de la médiation, qui, comme vous là, c'est en fait, c'est des gens qui sont neutres, qui sont sans jugement. On fait tous, en tant que parents, du mieux qu'on peut, avec la manière dont on a été élevé, avec ce qui nous a construit, nos difficultés, nos traumatismes, etc., etc. Et que nous, on est formés à ça, justement, à pas être dans le jugement. Donc, il faut pas avoir peur de faire cette démarche. Je pense qu'il faut rassurer les parents là-dessus.
Oui, vas-y, Nathalie.
Après, je rebondis sur ce que tu dis. Et puis, tout à l'heure, quand tu parlais de tes conférences, moi, ce que j'aurais envie de dire quand même aux parents, c'est de s'orienter plus vers des professionnels comme toi, c'est-à-dire des professionnels qui sont là sur le terrain. Sur Internet, effectivement, il y a foison de possibilités, foison de conseils, foison de payants ou pas payants. Ça reste quelque chose quand même qui est très abstrait pour les personnes. Et voilà, les personnes qui peuvent s'orienter vers des professionnels, que ce soit dans des associations, que ce soit comme toi dans une... Comment s'appelle déjà ton...
Cordée de parents.
Cordée de parents, voilà, on l'aura en tête nous aussi.
Comme la cordée de la montagne.
Voilà, mais ça c'est important. Voilà, des professionnels qui vont pouvoir être au bout du fil, qui vont être là physiquement, qui vont pouvoir accueillir aussi les parents.
Et puis que les parents prennent conscience aussi qu'en fait, c'est pas... une méthode et tout de suite on met en application et ça marche. En fait, c'est vraiment quelque chose à mettre en place sur le long terme. C'est à essayer comme un instrument. Alors, j'y connais rien en musique, mais comme un instrument qu'on accorde. On va essayer le son, ça marche pas, on va tourner un peu plus la molette de la guitare. C'est quelque chose dans l'association qui m'a formée, on parle d'une nouvelle langue à apprendre en fait, hein, vraiment. Et puis à s'adapter à cette société qui n'est pas la même que celle dans laquelle étaient nos parents. On ne peut pas faire un copier-coller de l'éducation qu'on a eue par rapport, avec celle d'aujourd'hui.
Mais c'est vrai, dans une fratrie, en fin de compte, on se rend compte, on va élever, admettons, le premier d'une façon, sur l'autre, on verra bien que cette méthode ne fonctionnera pas. Donc, de toute façon, les parents sont toujours confrontés à ça.
Elle peut ne pas fonctionner même avec le même enfant en fonction du moment, en fonction de son caractère. Je vous donne un exemple pour reprendre sur l'idée de la punition. Si je dis t'as tapé ton frère, tu vas au coin. En fait, il va y avoir deux types de caractères. Deux types ou même trois. Hein. Il va y avoir le caractère rebelle qui va dire ouais, je suis au coin, qui va se dire dans sa tête ouais, je suis au coin, c'est de la faute de mon frère, je m'en fiche. La prochaine fois, je le taperai, je me ferai pas prendre, je ferai ça en douce. Et il va avoir un caractère rebelle, une envie de vengeance. Et puis il va y avoir le caractère soumis qui va se dire ouais, de toute façon, c'est toujours sur moi que ça tombe. De toute façon, on m'a pas, de toute façon, c'est lui le préféré, etc. Et c'est vraiment deux caractères différents, deux façons d'imaginer les choses différentes, et à cela, il va réagir différemment, et du coup, ce qu'on va mettre en place ne va pas forcément fonctionner de la même manière, parce que son caractère n'est pas le même.
Donc, il faut vraiment bien connaître son enfant
et se connaître.
Dans ce cas-là. Et se connaître soi aussi, oui, effectivement.
Oui. Parce qu'on n'est pas le même parent à 20 ans, à 30 ans, à 40 et à 50.
Voilà, et quelque chose d'important, c'est que il faut pas vouloir être parfait, parce qu'on n'y arrivera pas de toute façon. Parent parfait, ça n'existe pas.
Comme les enfants.
Voilà.
Parfait. L'enfant idéal n'existe pas.
L'enfant idéal.
Ça. Oui, puis il y a des moments de la journée où on est plus à l'écoute. Et on va être plus réactif. Et les enfants, c'est exactement la même chose.
Voilà.
Un enfant qui boude ne va pas être réactif à nos paroles. En fin de compte, il faut choisir le moment où il va pouvoir écouter. Et c'est ça qui est
et dans le difficile. Sens où c'est... et moi, est-ce que je suis en capacité de lui expliquer à ce moment-là?
Oui.
Et lui, est-ce qu'il est en capacité de le recevoir? Voilà. C'est dans les deux... Vraiment, c'est dans les deux sens.
On est vraiment dans le rapport humain, c'est-à-dire que même avec enfants ou entre adultes ou entre collègues, à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, un conflit, quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord et qu'on est en colère, il vaut mieux laisser s'apaiser cette colère et pas effectivement s'expliquer à chaud, mais plutôt voilà, prendre du recul et puis revenir sur « bon ben, je me suis peut-être énervée sur ce truc-là, mais je ne suis pas d'accord avec ça » et le faire à froid.
Il faut plus que 3 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans le futur, en fin de compte, pour adoucir les relations parents-enfants? Qu'est-ce qui manque actuellement, en fin de compte, pour qu'on puisse vivre la parentalité comme un art d'être parent, avant tout, sans que celui-ci soit une épreuve ou une culpabilité de tous les jours, mais plutôt une petite quiétude pour toute la famille? Qu'est-ce qu'il manque dans notre société, justement, pour effacer toutes ces tensions?
En fait, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est prendre le temps. Prendre le temps.
Dans un monde
stressé. Que, voilà. Et puis, aujourd'hui, on veut absolument voilà, que nos enfants fassent plein d'activités. On a tendance à répondre tout de suite, comme avec les SMS. Non, on se pose. Mon enfant me pose une question. J'attends, je réfléchis avant de te donner une réponse. On n'est pas obligé de donner la réponse tout de suite. Et puis, jouer, passer des moments avec eux, faire des recettes.
Et quand on ne sait pas, il faut le dire. Moi, je disais à mes enfants, je ne sais pas, laisse-moi réfléchir, je vais voir dans le dictionnaire s'il le faut, mais je disais, je ne sais pas. Et il n'y a pas de honte pour les parents de le dire.
Ce qui manque aussi, c'est leur laisser un peu plus la parole.
Oui.
Parce que nous, on le voit dans les classes, il n'y a pas assez de temps où ils ont d'échanges, de paroles entre eux. Échanger de paroles, c'est vrai. Et là, dans les activités qu'on fait, on le voit.
Et c'est là que c'était intéressant que tu poses toutes les questions aux ados.
Nous, on avait fait des débats.
Je crois que c'est fini.
Oui.
On nous fait signe.
Notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Adeline, Valérie, Nathalie et Perrine, voilà, d'avoir assisté à notre émission. Le thème du mois prochain sera les actualités du côté de notre ministère de l'Éducation nationale.
Espérons qu'elle soit bonne.
Beau débat en perspective. Notre émission sera diffusée pendant le mois de mars, le vendredi 8 mars à 19h, le lundi 11 mars à 16h30, le samedi 23 à 17h et le mercredi 27 à 2h du matin. Merci Luc à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-mulsien.fr. Bonne journée, au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un Brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira, bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20h, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés, et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac.